grande histoire de l'homme et de son expansion, c'est l'histoire du recul des forêts et c'est l'histoire des sols et de la gestion des sols.
Les podcasts Ma Patience, c'est impatience.rsr.ch.
Aujourd'hui, dans Impatience, nous allons largement parler de la biodiversité des sols. Alors tout à l'heure, il sera question d'engrais verts avec Pascaline Minet. Mais tout d'abord, état des lieux avec vous, Adrien Zerbini. Alors ce qu'il faut déjà dire, c'est que la biodiversité des sols, eh bien, elle est trop souvent oubliée.
Mais vous avez raison de le dire, et pourtant, elle est essentielle à la vie sur Terre. Alors on dit toujours pour la biodiversité essentielle, mais là, c'est très direct. Alors imaginez cette partie vivante de la surface de la planète Terre, ce mince épiderme, une peau de grosso modo 50 cm d'épaisseur. Quand on pense à la planète Terre, c'est rien. Elle est à la base de notre nourriture. On oublie les poissons, les algues, mais toute l'aventure humaine est totalement dépendante de la vie du sol. Et cette vie, eh ben, elle est complexe, elle est diversifiée. Bref, il y a bel et bien une biodiversité dans les sols. Et la richesse de cette vie est directement liée à la capacité d'un sol à produire des plantes, donc in fine, à nous nourrir.
Et pour parler de cette diversité, vous avez rencontré une vraie passionnée.
La très terrestre Elena Havlicek, qui est pédologue. On n'aura pas le temps de faire le tour complet de sa carte de visite, qui est impressionnante. Elle est chercheure au laboratoire Sol et Végétation de l'Université de Neuchâtel. Et elle travaille aussi à la division des sols de l'Office fédéral de l'environnement, l'OFEV. Et elle est surtout, vous l'avez dit, passionnée, passionnante. Bref, c'est l'interlocuteur de choix pour évoquer cette biodiversité des sols.
On peut parler des différents niveaux de biodiversité. Là, je vais m'arrêter à la biodiversité au nombre d'espèces. Donc, on n'en sait rien. Enfin, c'est pas vrai. On n'en sait pas tout à fait rien. On a des idées. On pense que un quart des espèces vivantes sur Terre sont dans les sols. Donc, un quart. Et si on prend simplement les micro-organismes, quand je dis micro-organismes, j'entends des bactéries, des champignons, toutes ces choses qui ne sont pas visibles à l'œil nu, on estime qu'on en connaît 1%.
Par contre, on sait en quantité, en biomasse, si on prend un mètre carré de terre, on sait à peu près ce qui vit là-dedans.
Alors là aussi, on a des estimations. Évidemment, ces estimations changent énormément d'un endroit à l'autre. Mais globalement, sur le plateau en Suisse, on prend un sol de prairie, par exemple. On sait qu'on a en gros 3 kilos d'organismes dans un mètre carré de sol sur une trentaine de centimètres d'épaisseur. Donc ça, ça nous donne un poids de 35 kilos jusqu'à 50 kilos. Et là-dedans, en fait, faut vous imaginer, vous prenez un mètre carré de prairie, vous posez un lapin de 3 kilos, c'est déjà un gros lapin, et ben c'est l'équivalent de ce que vous avez dessous.
Et alors, cette biodiversité qui est dans la Terre, on en dépend singulièrement pour notre survie, parce que la vie de la Terre, c'est celle de l'agriculture.
Alors, bien entendu, bon, je vais peut-être axer ça autour de l'humus. C'est la partie organique des sols, donc ce qui est noir dans un sol. L'humus, c'est les déchets vivants transformés une fois qu'ils sont morts, en fait. Et ces déchets, ils se transforment donc en humus. Ça, c'est les organismes du sol qui le font. Et l'humus est nécessaire au sol pour fonctionner, tout simplement. Un sol sans humus n'est pas un sol. C'est du sédiment pur, c'est du sable, et puis il n'y a pratiquement rien qui pousse dedans. Il vous faut cet humus, si vous voulez, c'est ce qui donne en partie l'architecture du sol, sa structure qui fait que ce n'est pas quelque chose de compact, mais que c'est quelque chose qui est aéré, où l'eau peut s'infiltrer, par exemple. Et cet humus, il n'y a que les organismes du sol qui sont capables de le faire. L'homme n'est pas capable. Même quand on fait du compost, par exemple, eh bien, en fait, on compte sur les organismes qui s'infiltrent dans ces déchets végétaux, habituellement, ou déchets de cuisine, ces déchets verts. On compte sur les organismes pour les transformer de déchets en quelque chose de noir, de fertile.
On peut s'émouvoir d'un singe ou d'un éléphant qui va disparaître de la planète. Par contre, une bactérie, un cloporte ou quelque chose comme ça qui est dans le sol et qu'on ne connaît même pas, probablement, par son prénom, on est emprunté.
Alors, ça, c'est la première chose. C'est qu'on ne connaît évidemment pas déjà toutes les espèces qui vivent dans le sol. On connaît les grands groupes. Globalement, par exemple, les vers de terre, on sait qui est qui. Ça, on peut les appeler par leur petit nom. Mais ce n'est pas très sexy. Un éléphant ou, comme vous dites, un tigre, même si c'est un prédateur, il a un potentiel de sympathie. Dans le sol, il y a des prédateurs. C'est par exemple des pseudoscorpions. C'est des petits machins qui courent là et qui sont nécessaires parce qu'ils régulent aussi la vie dans le sol. Mais le potentiel sympathie pour ce genre de petits arachnides, il n'est pas terrible.
Elena Wilczek, vous avez quantifié au kilo en disant voilà, c'est un gros lapin, 3 kilos par mètre carré. Et est-ce qu'on sait le lien qu'il y a entre la densité de cette vie, ou c'est peut-être pas la densité la question, la diversité peut-être, et la productivité d'une terre, si le mot vous fait pas défriser?
Non, le mot ne me fait pas défriser. C'est clair que des sols à rendement, plutôt que des sols fertiles, des sols à rendement agricole, doivent avoir de nombreux organismes qui sont présents. Parce qu'en fait, une plante ne peut pas se nourrir toute seule. Une plante, elle a besoin de partenaires pour pouvoir se nourrir. Et ces partenaires, c'est par exemple des champignons. Ça peut être les bactéries qui lui préparent sa nourriture. Une plante, vous ne pouvez pas la mettre juste dans un humus stérile, par exemple un terreau que vous avez stérilisé. S'il n'y a vraiment que de l'humus, elle ne va pas pouvoir se nourrir. Elle a besoin de matière minérale. Et ce passage humus qui est organique au minéral pur, donc les éléments comme le calcium, potassium, phosphore, etc., c'est les organismes qui font cette transformation. En fait, le sol, c'est l'usine de la vie. Et dans cette usine, vous avez des employés. Il y a des employés qui font le travail chimique. C'est les ingénieurs chimiques du sol. C'est eux qui transforment justement les matières en autres matières. Vous avez ce qu'on appelle des régulateurs biologiques. Le pseudoscorpion que j'ai évoqué tout à l'heure, qui est un prédateur. En fait, si tout à coup vous avez trop d'ouvriers dans une certaine branche, ça va déstabiliser la production globale. Donc le pseudoscorpion, lui, va s'arranger pour modérer ça. Et puis vous avez des architectes dans le sol. Le ver de terre en est un. C'est ceux qui construisent, si vous voulez, l'usine. Et certains organismes sont à la fois des régulateurs, des architectes et des ingénieurs chimiques.
Alors parlons de chimie, l'homme va évidemment utiliser cette terre pour se nourrir, donc c'est assez important. Et le type d'agriculture qu'on va pratiquer sur la terre est fondamentalement important.
Alors, de toute façon, nous devons nous inspirer de ce qui se passe naturellement dans les sols pour nous nourrir. D'ailleurs, c'est ce qui se passe, mais on le fait de manière inconsciente. Les terres, on doit les utiliser pour nous nourrir, c'est notre base alimentaire. Mais on doit être conscient que cette base alimentaire, ce n'est pas juste un substrat inerte. On doit justement tenir compte de ces aides, de cette usine de la vie qui est dans le sol, qui est partie prenante. Simplement, on ne la voit pas. On voit le maïs qui pousse, mais on ne voit pas la bactérie qui aide le maïs à se nourrir. Et ça, on doit en tenir compte. Malheureusement, jusqu'à présent, on ne connaît pas énormément de choses là-dedans. C'est vraiment, c'est la boîte noire des écosystèmes. On voit ce qui rentre dedans, on voit ce qui sort, ça on arrive même à quantifier. Mais alors, ce qui se passe exactement, on ne le sait pas.
On sait comment ajouter de l'azote, puis ça nous rend bien service.
Et c'est même indispensable. Un sol qui tourne naturellement, c'est un sol qu'on ne va pas utiliser, auquel on ne va rien exporter. Dans une forêt, il n'y a aucun problème, pas besoin d'ajouter des engrais. Mais dans la mesure où on va exporter le maïs pour le manger, on a enlevé des éléments au sol et on doit les restituer. Mais tout est dans la qualité, la quantité de restitution.
De quelle manière?
Exactement, de quelle manière on va le faire?
L'agriculture elle-même est par définition un déséquilibre pour le sol.
Bien entendu. En fait, la grande histoire de l'homme et de son expansion, c'est l'histoire du recul des forêts, puisque l'agriculture est là où ne sont plus les forêts, on les a défrichées. Et c'est l'histoire des sols et de la gestion des sols. Mais ce qu'il faut peut-être pas oublier, là on parle beaucoup d'alimentation, mais il y a encore beaucoup d'autres choses qui se passent dans le sol. On met des produits plus ou moins polluants, plus ou moins contaminants, on les met dans l'air, on les libère un peu partout, par nos activités industrielles. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'on a des organismes dans le sol qui sont capables de les décomposer. Évidemment pas tous. Certains, on les a fabriqués tellement solides, je pense au DDT qui était assez connu, c'est un produit qui est pratiquement indestructible par qui que ce soit. Mais on a beaucoup d'autres phytosanitaires qui peuvent être partiellement décomposés dans le sol. Et ça, c'est les organismes qui le font. La biodiversité du sol, par exemple, va nous fournir des produits pharmaceutiques. Beaucoup de produits qu'on utilise, à commencer tout simplement par les antibiotiques, par la pénicilline, sont formés par les organismes du sol.
Bactéries,
champignons. Il y a un potentiel de biotechnologie dans les sols qui est exploité.
Impatience. Cette usine de la vie qui est dans le sol, c'est la boîte noire des écosystèmes. On voit ce qui rentre dedans, on voit ce qui sort, mais alors ce qui se passe exactement, on ne le sait pas.
Impatience s'attrape aussi sur Facebook.
Ce soir, dans Impatience, il est question de la biodiversité des sols et des différentes stratégies qui sont développées pour maintenir un sol riche dans l'agriculture. Et parfois, Adrien Zerbini, il y a des idées surprenantes.
Bah oui, dans le monde entier, toutes les traditions agricoles depuis le néolithique, donc ça nous ramène
à...
pratiquent différentes formes de labour. Alors, est-ce que ce labour est compatible avec une bonne biodiversité, je vais y arriver, des sols? C'est une question qu'on va se poser avec Raphaël Charles. Raphaël Charles, il est agronome à la station de recherche Agroscope Changin à Wädenswil et il est convaincu, comme Elena Alvicek, qu'on a entendu il y a un instant, que la richesse d'un sol, c'est sa biodiversité et la clé donc d'une bonne agriculture, d'une agriculture durable.
Pour semer une culture, il va falloir préparer le sol. Et puis pour préparer le sol, il y a différentes manières de le faire. Et on peut avoir des interventions qui sont très perturbantes pour le sol, par exemple un labour. Ou bien on peut avoir d'autres techniques qui sont justement dites des techniques de conservation du sol. Où on va avoir des interventions beaucoup plus légères, beaucoup plus simplifiées pour justement perturber le moins possible les fonctions du sol, son fonctionnement, que ce soit au niveau des organismes vivants, mais aussi toute sa structure, puisqu'un sol, finalement, c'est comme un bâtiment, il y a une structure, il y a de l'air qui circule, il y a de l'eau qui circule, il y a des éléments nutritifs, donc c'est bien de ça qu'il s'agit, effectivement.
Alors, cette prise de conscience, par exemple à Changin, à Agroscope Changin à Wädenswil, elle est récente?
Non, elle n'est pas si récente, parce que si on regarde mes prédécesseurs, il y a 40 ans, ils ont mis en place des essais, qu'on dit aujourd'hui de longue durée, parce que ces essais sont toujours en place. Et depuis 40 ans, on applique toujours les mêmes procédés, qui sont des procédés très contrastés pour voir l'effet à long terme des techniques culturales sur le fonctionnement du sol et bien sûr sur la production agricole.
Alors ces essais, j'imagine que c'est labour profond, on gratouille, c'est ça ?
Toutes ces techniques, elles évoluent, mais il y a le labour d'un côté, si on veut, qui retourne tout le sol en profondeur.
Puis donc là, excusez-moi, le bâtiment, l'immeuble dont vous parliez tout à l'heure, on le remet à l'envers.
On fait tabula rasa chaque année quand on laboure. On fait table rase du passé, et, si on veut, on peut dire ça comme ça, et on recommence à zéro. C'est comme dans le jardin, dans son potager, où on tourne le sol. Mmh. Voilà. Puis de l'autre côté, on a les techniques simplifiées où on intervient moins profondément, d'abord sans tourner le sol, et puis finalement, sans rien faire au sol, ça c'est le semis direct, où on amène la graine directement dans le sol, en considérant que la structure elle est suffisante, et puis que l'état du sol permettra à cette graine de germer et de se développer. Mais il y a d'autres contraintes techniques, et c'est là-dessus qu'on doit tous travailler, parce que le labour, ça résout un certain nombre de choses, de problèmes liés à l'état du sol, parce qu'il y a des machines qui passent dessus, liées aussi à l'enherbement, parce que les mauvaises herbes, pour s'en débarrasser, le plus simple, c'est de les retourner, ou bien d'avoir des herbicides, bien sûr, et toute cette problématique qu'on doit travailler, en fait.
Alors, ce n'est pas forcément le sujet, mais la labour, elle existe même dans des techniques d'agriculture traditionnelle, où on voit en tout cas des bêtes tirer des charrues. La charrue avant les bœufs, ça date d'avant le tracteur, disons.
Alors, ça date d'avant le tracteur, et c'est la technique, en fait, qu'on retrouve dans toutes les civilisations. C'est là où c'est retourner sol. Peut-être qu'il y a une grande différence, c'est qu'avec les bêtes qu'on utilisait avant, en tout cas en Suisse, mais qu'on utilise toujours ailleurs sur la planète, on intervenait moins profondément, plus en surface. Maintenant, avec les tracteurs, la première tendance a été de faire des labours très profonds, et maintenant, on revient en surface parce qu'on constate que ça ne sert à rien de travailler très profond. Mais c'est vrai que c'est une tradition, c'est une technique traditionnelle. Nous, on pense qu'il y en a des meilleures ou des alternatives, en tout cas. La difficulté, c'est que l'agriculteur, il a aussi une culture dans la conduite de ces différentes espèces dans la rotation. Et puis là, il doit lutter en fait contre son passé, contre sa culture. On connaît tous des tableaux du laboureur. Et puis finalement, derrière le mot labour, il y a le mot labeur. Et quand on parle de technique culturelle simplifiée et de simplifier le travail, des fois, c'est difficile de se l'imaginer. Donc ça, c'est une des grosses contraintes finalement. Avec l'agriculteur, quand on change de technique de travail du sol, on ne lui demande pas simplement de remplacer une machine par une autre, mais on lui demande de changer tout son système de production. Donc c'est presque comme passer à l'agriculture biologique. On lui demande une reconversion quand on lui demande de changer ses techniques.
Raphaël Charles, sur cet essai qui se fait depuis donc 40 ans sur les sols. Donc, qu'est-ce que vous avez réussi à identifier par rapport à la vie du sol et ses différents modes ?
Alors, par rapport à la vie du sol, on voit effectivement comment on ne laboure plus, il y a plus de lombriques. Et si on voit plus de lombriques, on peut s'imaginer sans problème que derrière, il y a beaucoup de micro-organismes qui sont plus présents quand on évite le labour. Et nous, on peut le mesurer de façon indirecte à travers la respiration du sol ou à travers la mesure de certains éléments vivants du sol. Donc ça, c'est mesuré, c'est montré. Quand on laboure, on détruit un certain nombre d'éléments de la vie du sol. Et quand on simplifie les techniques, on augmente cette vie du sol. Ça, on l'a montré. Puis après, il y a toutes les propriétés physiques et chimiques qui sont souvent améliorées. Il y a notamment la matière organique qui s'accumule en surface. Et puis cette matière organique en surface, elle crée finalement un manteau protecteur face aux intempéries pendant l'hiver. Donc on a des propriétés physiques qui sont nettement améliorées. Disons, en tout cas en tendance, on n'est pas plus mauvais. Et puis finalement, on le voit au niveau du rendement, on n'est pas plus mauvais non plus. On a des rendements équivalents généralement. Mais maintenant, il faut faire des distinctions. On a différents sols, des sols très argileux, des sols limoneux, des sols plus organiques, plus tourbeux. Et chaque sol réagit différemment à ces techniques. Donc il faut développer chaque technique pour les types de sols qu'on a. Alors je pense que les techniques de conservation du sol, elles vont s'imposer, déjà sous la pression de l'économie et de l'environnement finalement aussi, c'est que c'est très gourmand avec nos tracteurs, c'est très gourmand en énergie. Passer une machine pour labourer ou passer des dents de façon profonde, c'est très gourmand en diesel.
Une puissance énorme.
C'est une puissance énorme effectivement qui est nécessaire. Mais on a des limites. Ce qui a changé fondamentalement par rapport au passé ou par rapport à l'agriculture traditionnelle, c'est l'exploitation agricole. Si on demande à un enfant encore aujourd'hui, dessine-moi une exploitation, il y a une maison avec une famille dedans, je ne sais pas combien de temps elle va durer d'ailleurs, il y a une exploitation, il y a du bétail, il y a des cultures, il y a peut-être des arbres aussi. Aujourd'hui, maintenant, l'exploitation, si on la regarde, surtout en Suisse romande, le bétail, il a migré du côté de l'est de la Suisse. Il n'y a plus de bétail et quand on supprime le bétail, on supprime beaucoup de choses. On supprime les herbages qui sont toujours une manière de régénérer le sol. On supprime les engrais de ferme qui sont une manière de retourner au sol des engrais organiques qui sont très favorables par rapport à la matière organique du sol. Donc dans des exploitations sans bétail, après 20, 30, 40 ans, on constate qu'on a un problème de matière organique. Et pour résoudre ce problème, en fait, une des manières, c'est de réduire l'intensité de travail du sol pour maintenir si possible cette matière organique, ou bien d'utiliser des engrais verts, des couverts végétaux, et ça c'est le nouvel axe en fait de la recherche actuelle entre deux cultures, c'est d'avoir des couverts végétaux qui n'ont pas une vocation de produire, mais c'est simplement une vocation d'entretenir la fertilité du sol, qui va maintenir en fait toutes les fonctions vitales. Mais c'est vrai que tenir compte de la vie du sol, c'est essentiel. On ne fait sûrement pas assez de recherches à ce niveau-là. On a souvent négligé. Et souvent, on ne va pas voir ce qu'il y a dans le sol. Hein. Faire un trou, aller regarder ce qu'il y a sous les plantes, c'est quelque chose qu'on fait finalement trop rarement. Sûrement.
Raphaël Charles vient de mentionner les intercultures. Ce sont des plantes cultivées pour maintenir un sol en bonne santé ou pour l'enrichir. On parle alors d'engrais verts. Plus de détails dans quelques minutes, toujours avec Raphaël Charles et Pascaline Minet.
Un sol qui tourne naturellement, hein, c'est un sol auquel on va rien exporter. Dans une forêt, il n'y a aucun problème, pas besoin d'ajouter des engrais. Mais dans la mesure où on va exporter le maïs pour le manger, on a enlevé des éléments au sol et on doit les restituer.
Impatience. Joanne Ducey.
Suite de notre dossier consacré aux sols agricoles, avec cette fois-ci Pascaline Minet, on a entendu il y a quelques minutes Raphaël Charles nous parler de recherches sur les engrais verts. Qu'est-ce que c'est exactement ces engrais verts ?
Alors ce ne sont pas des produits chimiques d'un genre nouveau, ce sont des plantes qui sont utilisées par les agriculteurs pour améliorer la qualité de leur terre. Ce sont des végétaux qui sont plantés entre deux récoltes et on ne va pas eux-mêmes les récolter en fait, on ne va pas les manger ni les donner aux animaux. On va les utiliser pour maintenir la fertilité des champs et pour limiter l'érosion. On retrouve tout de suite l'agronome Raphaël Charles qui teste justement ces engrais verts à l'agroscope de Changin-Wédensville.
Nous, ce qu'on étudie, c'est différentes cultures qu'on peut mettre entre deux cultures principales. Alors, c'est ce qu'on appelle couverts végétaux ou bien engrais verts. Ce qu'on cherche, c'est des cultures qui ont une capacité de croître très rapidement. Par exemple, un blé, on le récolte au mois de juillet. La culture suivante, qui peut être un maïs l'année suivante, et ben là, on va profiter de cette période intermédiaire pour mettre autre chose, sachant qu'on a décidé de produire du blé et du maïs. Ça peut être aussi à très court terme, on va cultiver un pois, par exemple. Après ce pois, on a décidé de mettre un blé d'automne, et entre le mois de juillet et le mois d'octobre, sur quelques mois, on arrive à faire pousser des cultures. Et ces cultures intermédiaires, elles vont protéger le sol, elles vont pomper l'azote qui est laissé par le poids et garder cet azote disponible pour les cultures suivantes, par exemple. Donc il y a beaucoup de fonctions. Et nous, on cherche à développer ces différentes fonctions selon les objectifs de l'agriculteur. Il y a différentes fonctions et ces cultures, elles n'ont pas une vocation de production, mais simplement une vocation d'entretenir la fertilité du sol ou bien d'amener de la fleur dans le paysage, des fleurs pour les abeilles. Il y a beaucoup de fonctions qu'on peut envisager.
Est-ce qu'on peut parler d'un ou deux?
Oui, volontiers.
Un ou deux de vos essais? Je ne sais pas lesquels sont vos favoris.
Alors, on peut commencer par une fleur bleue qui est la facélie. Alors ça, c'est une,
tout au bout, là, oui, c'est des grandes fleurs bleu mauve.
Alors ça, c'est une culture qu'on voit régulièrement dans le paysage d'automne en Suisse. On la connaît que comme couvert végétal, donc elle n'a vraiment aucune fonction de production. Ça couvre très bien le sol et il n'y a pas de mauvaises herbes qui poussent. Alors ça, c'est aussi un point intéressant parce que quand on couvre le sol, il n'y a pas de mauvaises herbes. Donc on évite aussi d'apporter des herbicides simplement pour empêcher les mauvaises herbes de se développer avant la culture suivante.
Donc c'est pour ça qu'on la plante, celle-là?
Alors on la met comme engrais vert volontiers, mais pour l'installer, il faut faire un petit peu de travail du sol. Alors nous, notre travail, c'est aussi de trouver d'autres espèces qui n'ont pas ces exigences en termes de préparation culturelle pour que l'engrais vert pousse, donc des espèces plus rustiques. Alors voilà, par exemple, comme alternative, juste à côté...
On change de couleur.
Voilà, une couleur jaune qu'on aime bien aussi. Alors ça, c'est la dernière de la famille des couverts végétaux qu'on vient d'introduire. Ah. Ça fait 3 ans qu'elle est cultivée en Suisse, à peu près. Elle n'est pas venue directement de la recherche, hein. Elle est venue d'agriculteurs, je dirais. Souvent, ils sont pionniers, les agriculteurs. Ils essayent des choses et ils sont venus en fait vers nous en nous disant, voilà, il y a une nouvelle espèce qu'on essaye qui est intéressante. On a vu que ça poussait en France, par exemple. Qu'est-ce qui se passe en Suisse? Alors, on la teste.
Donc, c'est le Niger.
Le Niger. Donc, le Niger vient d'Afrique et l'intérêt pour nous, c'est qu'elle gèle. Donc, pour la faire mourir, par exemple, pour éviter d'amener un herbicide avant la culture suivante, eh bien, on va profiter du gel, qui est un très bon herbicide finalement. Donc au premier gel, cette plante elle va simplement mourir normalement. Et puis pendant l'hiver, le sol est couvert par les résidus de cette plante. Et puis l'année suivante, on a des sols qui sont simplement couverts de paille, bien protégés contre les aléas climatiques. On peut simplement aussi incorporer cet engrais vert dans les premiers centimètres du sol. Il va rester un peu de paille. Et puis cette paille, elle permet de maintenir un bon état du sol, qui notamment limite l'érosion, par exemple.
Donc vous me dites engrais vert, c'est parce qu'elle apporte aussi des éléments nutritifs?
Voilà, ça permet de recycler les éléments nutritifs. Quand on a cultivé une céréale, après on est dans une période chaude, voire humide, quand l'humidité revient en août. Et là, il y a beaucoup d'azote qui est produit au niveau du sol. Et puis cet azote, soit il n'y a pas de plante qui l'absorbe et il est lessivé, et ce sont les nitrates qu'on retrouve parfois dans les eaux, ou bien soit il y a une plante qui pousse et qui va absorber. Donc on va recycler des éléments nutritifs, absorber l'azote du sol qui est disponible plutôt qu'il soit perdu par lessivage, et puis le rendre dans la matière organique du sol et le rendre de nouveau disponible dans le système.
Ça permet de faire tourner un peu les éléments, quoi.
Exactement, et d'éviter leur perte. L'exemple le plus frappant, c'est la légumineuse. Donc on a là un exemple de légumineuse. C'est une veste, mais ce serait la même chose avec un trèfle. Et ces légumineuses, elles ont la capacité de fixer l'azote de l'air au niveau des racines. Et tout cet azote est simplement pompé de l'air, fixé au niveau de la plante, concentré dans la plante. Et cet azote, en fait, dans le cas d'un engrais vert, eh bien, il est restitué à la culture suivante. Donc pour l'agriculteur, c'est une possibilité d'économiser de l'azote. Après un engrais vert légumineuse, il peut réduire la fumure azotée. Donc c'est aussi l'intérêt. Ou bien on associe ce couvert végétal à
d'autres espèces. Quelque chose qui gigote dedans, excusez-moi,
oui,
je suis un petit
justement,
peu...
Alors c'est aussi là l'intérêt du couvert. Pour continuer la digression sur ce qui vient de bouger, en France, ils ont développé des couverts végétaux à une vocation de chasse. C'est terrible, on ne le fait pas chez nous. Mais l'objectif est simplement d'offrir à du gibier chassé un couvert où il peut se développer. Nous, on inverse la chose, on utilise des couverts pour offrir une protection pour du petit gibier, ça peut être le cas. L'idée, elle est là même, finalement. Sur un sol nu, il n'y aurait rien, en fait.
Donc favorable à la biodiversité, c'est QFD.
On y revient.
Et ces couverts végétaux, est-ce qu'ils sont beaucoup utilisés en Suisse?
Alors, ils sont obligatoires par rapport aux prestations écologiques requises. Donc, les agriculteurs doivent, dans le cadre de la production intégrée, fournir un certain nombre de prestations. Et dans ces prestations, la couverture du sol, c'est un élément nécessaire. Alors là, on essaie aussi de progresser en allant encore plus loin. Là, on a parlé chaque fois d'un engrais vert bien particulier. On a un objectif pour ces prochaines années, c'est de développer des mélanges. Une culture seule, une culture pure, elle est toujours risquée. Il y a toujours un risque que quelque chose ne fonctionne pas. Si on mélange les espèces, on répartit les risques. Et chacune aura un rôle. Il y aura une première espèce qui va, par exemple, offrir très rapidement une couverture du sol. On utilise pour ça le sarrasin, par exemple, qui est aussi une culture bon, là, qu'on peut utiliser pour les crêpes. Hein, pour
oui, c'est farine. Ce que je me disais.
Mais ici, l'idée, c'est d'utiliser cette espèce qui se développe très rapidement comme première végétation. Et puis, comme on a semé un mélange d'espèces, d'avoir des espèces qui vont succéder ensuite. Donc d'abord, il y a notre sarrasin qui pousse, par exemple. Après, on pourrait avoir notre phacely qui lui succède. En même temps que du Niger, et puis on va aussi mettre des légumineuses pour fixer de l'azote. Puis comme la légumineuse, elle n'est pas trop radine, elle donne un peu d'azote à sa voisine. Et ça, l'avantage, c'est que finalement, il n'y a pas besoin d'amener d'engrais, donc il y a aussi entre les plantes une forme de cohabitation. Et c'est là-dessus qu'on travaille, donc développer des mélanges qui peuvent avoir différents objectifs et qui seront toujours plus flexibles que des cultures pures.
Et en plus, c'est beau.
Et en plus, c'est beau. Nous, ce qui nous importe avec les couverts végétaux, c'est surtout dans les exploitations sans bétail, où il n'y a pas d'herbage, où on n'a pas de culture fourragère, intercalaire, de disposer aussi d'une forme de protection du sol, et surtout une production de biomasse qui permet d'entretenir la matière organique du sol. Et c'est ce qui manque souvent dans les systèmes où il n'y a que des grandes cultures, parce que c'est une culture annuelle l'une après l'autre, où finalement, sur le long terme, on grille la matière organique du sol, on perd cette matière organique qui est un élément de base qui fait la fertilité du sol, qui gère l'ensemble des éléments nutritifs, qui gère la cohésion du sol. Et c'est pour ça que ces engrais verts, on les développe surtout dans cette perspective-là.
Adrien Zerbini, Pascaline Minet, avec vous. Donc là, on vient de découvrir différentes stratégies, différentes méthodes qu'on affine pour prendre soin, pour maintenir la terre vivante. Est-ce que ces techniques sont réellement nouvelles?
Alors non, elles ne le sont pas vraiment. Protéger les sols, éviter de les retourner trop en profondeur ou les couvrir de plantes pour limiter l'érosion, tout ça, ça relève un peu du bon sens, ça ne date pas vraiment d'hier. Par contre, c'est vrai qu'on avait un petit peu oublié ces pratiques avec l'arrivée des engrais, des pesticides et autres tracteurs surpuissants qui nous ont fait croire à un moment qu'on allait résoudre tous les problèmes des agriculteurs. Aujourd'hui, on est en train de revenir sur cette vision parce qu'on s'aperçoit que cette agriculture, elle peut parfois bousculer les équilibres naturels, d'où ce retour à des méthodes plus douces pour la terre et pour les êtres vivants qui la peuplent.
Oui, et puis là, on l'a bien compris, il y a un vrai avantage écologique à remettre au goût du jour ces anciennes méthodes parce qu'elles s'inspirent directement, comme le disait Elena Alvicek tout à l'heure, de la manière dont la nature régénère naturellement donc son sol. Mais il y a aussi un aspect économique qui risque de se faire remarquer très vite avec l'augmentation probable du prix du pétrole parce que ces engrais chimiques, ce sont des engrais pétrochimiques, donc des engrais fossiles. Et puis en plus, la question du phosphore qu'on utilise abondamment dans l'agriculture intensive et qui est une ressource minière qui diminue forcément rapidement. Donc pour tout ça, on comprend bien que ces nouvelles, entre guillemets, stratégies d'agriculture ont un avenir qu'on leur souhaite radieux.
À signaler encore, Pascaline, un nouveau site internet sur les sols, un site qui est destiné aux enfants.
Objectif-sol.ch, objectif au singulier, c'est le nom de ce site internet. Il a été créé par l'Office fédéral de l'environnement pour les écoliers, pour leur permettre de comprendre l'importance des sols. On y suit un petit lombric sympathique.
Dans un ascenseur,
il nous emmène sous le sol, c'est vraiment très joli, c'est très ludique. Donc l'adresse objectif-sol.ch.
Impatience.